J'attends, c'est une projection. Alors, je sais que c'est toujours compliqué de se projeter, mais j'attends à minima ça, et vous m'avez répondu qu'il y avait des projections, vous allez nous les présenter, c'est très bien, ça me va très bien.
Là, puis je souligne seulement que quand on nous dit attention de ne pas trop réduire les programmes récurrents, oui, effectivement. Seulement, les programmes récurrents, ça demande du budget. Donc, c'est un des choix qui éventuellement.
Vous pouvez également aussi imaginer que dans les travaux de voirie, vous allez faire beaucoup moins de travaux cette année avec le coût des matériaux. C'est pareil, j'en suis tout à fait conscient. Oui.
Voilà, donc c'est une de nos pistes de réflexion et je vous le redis, donc on va pouvoir les développer avec vous au mois d'avril et avant. Vous êtes les bienvenus. En commission des finances. Voilà. Et puis en commission travaux aussi. Sylvie, tu veux intervenir?
Non, je voulais juste dire que, effectivement, comme je débarque aussi un petit peu dans toutes ces instances, et bien sûr que je comprends qu'il faille assumer tout ça, et je trouve que globalement, c'est ce que j'aurais fait aussi. Ceci dit, je ne voudrais pas devenir schizophrénique là, en fréquentant deux instances dans lesquelles je suis obligée maintenant de siéger, puisque j'assume complètement mes responsabilités d'élu, et en écoutant deux discours qui sont complètement différents quand ils sont tenus dans l'une ou dans l'autre instance. C'était juste une observation, voilà. J'aimerais bien entendre les mêmes choses partout, des mêmes personnes, je veux dire. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a... Pas d'observation en ce qui me concerne sur les frais de personnel. Aucune.
Monsieur Delettre.
Oui, je veux d'abord tout d'abord m'associer complètement à ce que tu viens de dire, Sylvie. Alors, pour ma part, quelques observations qui vont nous permettre de revenir d'ailleurs sur certaines des remarques qui ont été faites pour peut-être recadrer un certain nombre de responsabilités quant aux difficultés financières auxquelles est confrontée la ville de Guéret. Alors, au préalable, vous connaissez ma sensibilité à la bonne gestion financière. Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur la question des investissements et des équilibres financiers qui leur sont liés, ce d'autant que, comme vous le précisez, nous sommes sur des seuils de vigilance, et vous l'êtes, vigilant, mais rien d'alarmant. Je voudrais interroger tout de même la volonté de maintenir l'encours de dette. Alors, je ne vais pas reprendre ici les points de cadrage économique que vous avez rappelés, monsieur Gargadenec, mais peut-être apporter au moins un complément, pour confirmer le scénario de la hausse des taux d'intérêt. Les organisations syndicales négocient en ce moment des augmentations de salaire de 3 à 5 % en moyenne selon les secteurs d'activité. Et l'augmentation mécanique du SMIC, qui se traduit directement sur une augmentation en cascade de beaucoup de bas salaires, va elle aussi structurellement soutenir cette tendance inflationniste. On va être confronté d'ailleurs durablement à de fortes tensions sur le marché du travail. On ne pourra pas y échapper, c'est démographique. Et puis, il ne faut pas oublier que les fonctionnaires ne vont plus longtemps accepter le gel de leur point d'indice. Alors, cette hausse des taux d'intérêt, j'en viens à cette considération sur les investissements. Je crois que nous devrions considérer les investissements qui sont destinés à produire des revenus ou permettre des économies différemment des autres. J'ai abordé cette question lors de notre dernière commission de développement durable. Nous avons échangé quant à la nécessité d'investir sur la rénovation énergétique de la maison des associations et plus généralement des bâtiments municipaux. Même en retenant des scénarios pessimistes, ces investissements sont remboursés par les économies permises à terme, et ce, sur la base du coût de l'énergie qui était sous-estimé au moment de cet échange. La guerre en Ukraine incite en effet les pays européens à déployer une forte politique d'autonomie énergétique, ce qui aura un coût qui n'était pas intégré jusque-là dans les analyses. Alors certes, ces investissements de rénovation énergétique dégraderaient notre endettement dont on sait qu'il se trouve au seuil de vigilance actuellement, mais considérer son opportunité sous ce seul critère de court terme est à mon avis une vision un peu étroite de la logique des investissements et de la bonne gestion financière à moyen et long terme. D'autant que les taux d'intérêt, je le confirme, vont effectivement assez sensiblement augmenter. En fait, renoncer à ces investissements aujourd'hui, eu égard à notre niveau d'endettement, c'est continuer à gréver notre budget de fonctionnement de dépenses énergétiques qui, hors effet coût, pourraient baisser. Ce faisant, nous allons donc dégrader notre capacité de remboursement à moyen terme. Vous l'avez rappelé fort justement, M. Gargadenec. Et j'insiste, les coûts de l'énergie ne vont pas seulement continuer à augmenter, ils vont fortement augmenter. Alors renoncer à ces investissements aujourd'hui, c'est devoir les engager demain, alors que nous le savons, les taux d'intérêt sont en train de remonter. Je pense qu'on peut présager une augmentation des taux d'intérêt de 1 à 2 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de la BCE qui consistait à maintenir un taux d'inflation compris entre 0 et 1,5% depuis 30 ans, je pense qu'ils ont tout intérêt parce que, évidemment, ça va réduire le poids de l'endettement d'un grand nombre d'États. Et vous l'avez rappelé, on en est à 116% du PIB, mais on n'est pas les seuls à avoir vu notre taux d'endettement public bondir avec la crise du Covid. Donc, c'est l'ensemble des pays européens et donc sans doute la BCE qui va être amenée à lâcher un peu de lait sur l'inflation, ce qui va donc entraîner mécaniquement une hausse de 1 à 2% des taux d'intérêt. Là encore, nous allons donc dégrader notre capacité de remboursement du fait de charges financières qui pourraient être moindres compte tenu du montant de ces investissements, c'est de dizaines de milliers d'euros dont il s'agit. Par ailleurs, en plus des seuls critères de bonne gestion financière qui, pour moi, se suffisent à eux-mêmes, nous avons une responsabilité environnementale, d'autant que votre majorité et toutes les 10 ici représentées ont pris des engagements forts à ce titre durant la campagne électorale. Et puis, dernier argument, sur ce sujet précis, des économies possibles en termes de dépenses énergétiques, si nous consentons à lâcher un petit peu de lest sur ces critères d'endettement avec des investissements un peu anticipés, la question de l'image qui est importante en termes d'attractivité et qu'on retrouvait finalement en quelque sorte dans le clip que vous avez diffusé en début de séance et qui vient d'être décliné dans la nouvelle charte graphique de notre ville. On ne peut pas mettre en avant ce positionnement écologique illustré par cette charte et renoncer à des investissements écologiques qui, en outre, je le répète, trouveront à terme leur propre équilibre financier. Je crois que nous devrions, ça existe dans d'autres collectivités, enfin en tout cas, c'est une proposition que je fais, je n'ai pas suffisamment de compétences dans la gestion financière pour savoir si c'est techniquement possible, mais je me dis que ça doit l'être. Dans l'organisation de la comptabilité de la commune, mettre ces budgets, ces investissements dans un budget annexe, parce que ils sont censés s'équilibrer. Je pose la question en tout cas, au moins et si ce n'est possible, au moins dans la manière de les appréhender. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse considérer ces investissements-là, qui sont destinés à produire ici des économies, mais je vais en aborder un autre qui est destiné à produire des revenus, de la même manière que tous les autres investissements. Alors si on ne peut pas les mettre dans un budget annexe, ben, c'est pas grave, on les met dans le reste du budget, mais au moins on les appréhende d'une manière différente. Je vois au moins un autre investissement auquel nous ne devrions pas renoncer, c'est le rachat et la réhabilitation de cellules commerciales pour notre centre-ville. Là encore, nous avons affaire à un investissement qui doit générer des revenus. La cellule du haut de la Grande Rue a tout de suite trouvé preneur. Nous savons que l'un des principaux freins à l'installation, c'est la difficulté à trouver des locaux en bon état et de la bonne dimension. Nous savons aussi que si une commune n'a pas vocation à devenir un bailleur commercial, il est intéressant à moyen terme de disposer de la propriété de certaines cellules pour maîtriser ce développement commercial. Nous savons enfin qu'avec la redynamisation de ce centre-ville, les cellules en question vont prendre de la valeur. Donc ne pas poursuivre ces rachats et réhabilitations, par ailleurs fortement subventionnés, au prétexte de ce que notre niveau d'endettement ne nous le permettrait pas, c'est là encore, je crois, sacrifier une logique de bonne gestion financière, à laquelle je suis soucieux, rendons-nous bien, et politique, de moyen et long terme, à une préoccupation étroite, d'équilibre financier de court terme. Première chose. Deuxième chose, s'agissant de la fiscalité locale, et pour répondre en assez grande partie, je crois, à certains des propos qui viennent d'être tenus. Les Guéretois se font tondre la laine sur le dos. Taux de pauvreté et de chômage plus élevé que la moyenne de notre strate.
taux de ménages qui contribuent aux recettes fiscales un peu inférieures à la moyenne de notre strate. Nécessité, vous l'avez rappelé, d'assumer un certain nombre de charges de ville-préfecture dans une toute petite préfecture. Nous sommes donc structurellement dans une situation compliquée. Comme si cela ne suffisait pas, nous nous retrouvons à devoir assumer seuls le coût d'investissement et de charges de fonctionnement d'équipements qui, en réalité, profitent à l'ensemble de la communauté d'agglomération. Mais oui, mais que n'avez-vous fait dans les mandats précédents pour rééquilibrer cette injustice fiscale? Les équipements sportifs, le plan d'eau de Courtille, la salle André-Lejeune, la piscine, le musée, les écoles primaires pèsent sur les seules épaules des Guérétois alors qu'ils profitent à tous les habitants de la communauté d'agglomération. C'est totalement injuste. Alors je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les compétences pour savoir comment établir une répartition plus juste de ces charges par l'impôt, mais il me semble très clair qu'elle se fait aujourd'hui au détriment de Guéret et que manifestement la majorité du conseil communautaire s'en satisfait et pour cause. Je trouve d'ailleurs particulièrement étonnant que des élus qui se réclament de gauche et nous le rappellent à l'envi puissent d'un côté dénoncer la concurrence fiscale entre États, y compris au sein de l'Union européenne, et d'un autre côté la pratiquer sans vergogne lorsqu'elle leur est profitable à l'échelle de leur commune. Madame le maire, les élus de la communauté d'agglomération doivent être mis en face de leurs responsabilités de justice fiscale, d'une manière ou d'une autre, et sans oublier la nécessaire solidarité dont nous devons tous faire preuve vis-à-vis des plus démunis. Chacun doit être amené à assumer le coût des services publics dont il est l'usager au même titre que son voisin. Il n'y a pas de raison que les habitants des communes avoisinantes puissent profiter de tous les équipements et services que j'ai cités plus haut sans en assumer une partie du coût qui est alors de fait reportée intégralement sur les Guérétois. Il faut voir clair dans la réalité que nous observons. Ceux-là même qui considèrent à juste titre qu'il faut prendre plus aux riches pour redistribuer plus aux pauvres, localement prennent plus à une commune pauvre, Guéret, pour en faire profiter davantage des communes riches, Sainte-Fère, Saint-Laurent, Saint-Sulpice, et Saint-Sulpice, j'en passe, on marche sur la tête. C'est injuste, et ceux qui s'accommodent de cette injustice à nos détriments persistent, c'est injuste, et si ceux qui s'accommodent de cette injustice à nos détriments persistent, il faudra bien étudier tous les moyens de leur faire entendre raison. Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, ne restons pas des moutons, les loups sont dans la place et sont tout disposés à nous dévorer, dussent-ils, inconscients même de leur propre intérêt à long terme, faire disparaître leur mère nourricière.
Merci Monsieur Delettre. Bon, inutile de vous dire que je partage beaucoup, voire tous vos propos. Nous nous efforçons, chaque conseil communautaire, de faire valoir la place de Guéret, pour certains élus de Guéret, ne semble pas non plus une mission tout à fait prioritaire, mais au moins c'est la nôtre et celle de notre groupe qui siège aussi avec nous au conseil communautaire. Bien, nous avons bien noté tout ce que vous disiez. Je pense que on ne peut qu'aller dans votre sens. Donc, nous continuerons à faire valoir les intérêts de Guéret au sein de la communauté d'agglomération. Nous avons commencé à notre petit niveau à essayer de rétablir un petit peu l'équilibre en revoyant par exemple certains tarifs de ces équipements. Nous espérons, alors je vous dirais presque que la bataille est perdue d'avance, puisque ce qui est remis en cause actuellement, c'est même les anciens équipements qui ont été transmis à la communauté d'agglomération et sur lesquels on parle de revoir les clectes parce qu'à l'époque elles n'auraient pas été faites correctement. Ce sur quoi, bien sûr, les élus majoritaires de Guéret s'opposeront de la façon la plus virulente possible. Dont acte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien, je vous remercie. Donc, eh bien, le document d'orientation budgétaire est donc soumis à votre connaissance et a fait l'objet donc de débats, comme nous l'imposent les textes. Donc, je vous demande d'en prendre acte. Avant de passer au dossier suivant, donc, Monsieur Mouteau, sur notre fameuse convention d'occupation du domaine public avec le SDEC.
Donc, approbation d'une convention d'occupation du domaine public communal avec le SDEC de la Creuse pour l'installation d'une IRVE. Par délibération le 14 février 2022, le Conseil municipal a approuvé et autorisé Madame le maire à signer la convention d'occupation du domaine public communal relative au remplacement de la borne de recharge de véhicules électriques existantes située en haut du parking Eugène France par un modèle plus puissant. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur pour le déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques en Creuse, le syndicat des énergies de la Creuse a prévu de transférer l'équivalent de cette borne au niveau de la place de la gare sur la parcelle cadastrée AS367 appartenant à la ville et ouverte à la circulation publique. Son implantation a été définie contradictoirement entre les services techniques de la ville, de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et du SDEC. À cet effet, le projet de convention, en vue d'autoriser l'occupation domaniale correspondante et en fixant les conditions techniques, administratives et financières, jouant en annexe, a été établi. Il est précisé que cette occupation domaniale ne fera l'objet d'aucune compensation financière. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver cette convention d'occupation du domaine communal et d'autoriser Madame le maire à la signer.
Bien, donc cela correspond à la demande qui nous a été faite au dernier conseil municipal de consulter d'abord les services de l'aglo sur l'implantation de cette bande. Donc l'implantation a été décidée en commun. Voilà. Donc y a-t-il des oppositions?
Non, j'ai juste une question à poser, c'est sur le... Bon, moi j'y connais rien. Avec ces bornes, quelle est la vitesse de rechargement des véhicules électriques?
Là, c'est la... pour cette borne qui va être déplacée, qui va descendre à la gare, c'est des charges de 2 heures, je crois. Par contre, celle qui est mise en place à sa place, rue Eugène France, on est à 80%, non 60% en 20 minutes.
D'accord, ok. Ouais.
C'est une...
Ouais, oui.
C'est parce... une ultra rapide.
Parce que je pense que on le voit, il y a de plus en plus de ménages qui s'occupent de véhicules électriques. Et si la ville de Guéret pouvait communiquer sur la présence de ce type de borne en centre-ville, ça inciterait sans doute à des personnes qui sont en transit sur la nationale 145 à venir en centre-ville. Vous parlez de 20 minutes ou une demi-heure pour recharger le véhicule. S'il faut faire une pause pour déjeuner, je choisis le centre-ville de Guéret et je recharge ma voiture. Et ce faisant, j'en fais profiter nos restaurants.
Oui, oui, puis c'est surtout que c'est effectivement plus agréable que de s'arrêter une heure sur une aire d'autoroute ou pour faire recharger. Mais effectivement, on va voir comment on pourrait. Va y en avoir d'autres. Oui, oui, puis un panneau, effectivement, pourquoi pas à l'entrée de Guéret pour l'indiquer, et puis il y en a les gars.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Monsieur Pingot, la convention de partenariat avec le SPIP.
Alors, depuis 2016, le musée d'art et d'archéologie de Guéret intervient auprès des détenus de la maison d'arrêt de Guéret en partenariat avec le service pénitentiaire et d'insertion probatoire de la Creuse. Ces interventions, 6 par an en moyenne, d'une durée de 2 heures, consistent à présenter un thème à travers des reproductions d'œuvres du musée. Un diaporama d'œuvres projetées et un atelier de pratique artistique. Les sujets abordés correspondent à des thématiques d'histoire de l'art ou d'histoire locale, comme la préhistoire, l'Égypte antique, la peinture des paysages ou la Creuse à l'époque gallo-romaine. Elles sont réalisées par la médiatrice culturelle du musée, accompagnée d'un animateur du SPIP. Les participants sont sélectionnés sur demande de leur part pour une commission organisée par la maison d'arrêt. Ils sont au nombre de 10 maximum. Les coûts de matériel et de déplacement sont pris en charge par la ville de Guéret quand les conditions le permettent. Une exposition des réalisations des détenus est organisée à la maison à la maison d'arrêt en fin d'année. Ces interventions sont réalisées dans un objectif citoyen de diversité des publics du musée et d'égal accès de tous à la culture, notamment de ce public particulier dit empêché, conformément aux missions des musées de France définies par l'article L441-2 du Code du patrimoine. Je vous fais grâce de la lecture de la convention. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat avec le SPIP pour l'organisation d'interventions de médiation culturelle à la maison d'arrêt de Guéret pour l'année 2022.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention donc, qui sera signée pour un an, à raison donc, d'une séance par mois, un mois sur deux? Je pense que c'est un beau projet. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des interventions complémentaires? Oui, monsieur Brunetti.
Non, je voulais revenir sur le débat d'orientation budgétaire pour constater, enfin, s'il y a un martien qui débarquait ici, là, il pourrait s'imaginer que la commune gérée par la précédente équipe et par l'équipe actuelle serait au bord de la faillite et qu'on serait en grande difficulté. Je voudrais quand même dire que l'augmentation des impôts qui est prévue, qui a été discutée en commission des finances, est de l'ordre de l'augmentation des bases uniquement et qu'on n'est pas à 1000% sur certaines fiscalités. Voilà. C'est tout. Donc, c'était aussi pour relativiser. Je partage parfaitement toutes les recommandations, les prévisions de conseils qui vont être faits, mais je pense aussi qu'il faut savoir de quoi on parle et ramener les choses à leur vraie proportion et à la vraie hauteur des finances actuelles de la commune qui, pour être sensible, n'est quand même pas catastrophique et ne nécessite pas 1000% d'augmentation sur... Voilà.
Monsieur Brunetti. Donc avant de conclure, vous donnez l'information.
J'avais une petite demande. Est-ce que la présentation et le débat du rapport d'activité de la communauté d'agglomération est prévu pour le prochain conseil? Parce que comme on en a été privé l'année dernière, j'aimerais bien que ça puisse se faire cette année. Et pour éviter de fâcheuses incidences de rendez-vous médicaux, ça peut toujours arriver, je pense qu'il me serait préférable de programmer très à l'avance la présentation de ce rapport d'activité.
Merci, monsieur Delette.
Oui, moi je voulais juste parler du comité de jumelage et du jumelage une seconde. Si...
Oui, je voulais justement en profiter pour indiquer quand même aux membres de ce conseil municipal que donc Madame Bourdier a accepté le poste de déléguée au comité de jumelage. On a décidé d'investir sur cette belle action qui a besoin d'être totalement redynamisée. Et donc, Sylvie nous semblait tout à fait adéquate et elle a accepté de s'en charger. Je te passe la parole, Sylvie.
Oui, merci. Donc, j'ai accepté cette délégation au sens où je crois qu'il y a effectivement un enjeu important dans le maintien et le développement de ces jumelages. Pour l'instant, il y en a deux pour la ville de Guéret. Je le rappelle, donc, un avec Stein en Allemagne et puis un avec Sitanga ou Burkina Faso. Ce sont deux jumelages qui sont fondés de façon très différente, mais je crois que les valeurs qui les animent sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de souci du tout à les faire cohabiter, ces jumelages. J'avais envie de m'investir dans quelque chose. Je vais être à la retraite là dans très peu de temps. Et donc, ceci, bien sûr, ne préjuge absolument pas de mon positionnement alors, au sein de ce conseil. Je reste toujours dans la position qui est la mienne. Je tiens quand même à essayer de tous vous convaincre qu'il faudra faire quelque chose pour ce jumelage, tous autant que vous êtes, issus de quelques listes que ce soit, que vous serez à mes côtés pour les faire vivre, peut-être même en créer d'autres, je ne sais pas. Et en tout cas, déjà faire vivre cela. Il y a des, le comité de jumelage était fort mal en point, mais il est en train aussi de se restructurer. Ludovic, il siège avec moi régulièrement, puisqu'on est les conseillers municipaux délégués dans le conseil d'administration. Et on suit ça très attentivement. Et je crois que c'est une belle opportunité pour notre ville, une belle opportunité pour nous tous. Bon, aujourd'hui, il y a bien sûr cette problématique ukrainienne là qui arrive, qui nous frappe très fort et en même temps qui doit nous réveiller quoi, et nous faire comprendre qu'on est concerné et que justement l'amitié entre les peuples, elle se travaille en amont, elle se travaille au quotidien, elle se travaille chaque jour, pas seulement quand il y a des crises et des catastrophes. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vous appelle tous, tous que je considère justement comme mes amis, parce qu'il y a des amis entre les peuples et puis des amitiés aussi entre les classes politiques. Et aujourd'hui, je vous demande tous de vous associer à ce travail du jumelage. Je viendrai vous voir les uns ou les autres en tant que besoin et dans vos fonctions et grades respectifs pour vous demander votre aide quand ce sera le moment. Voilà, merci.
Très bien. Merci Sylvie. Et donc on aura l'occasion d'en parler régulièrement en commission vie associative aussi, faire un point avec toi et bien entendu qu'on s'y associera tous en tant qu'élus mais aussi en tant que membres d'associations diverses, puisque l'idée c'est bien de se reposer aussi sur la vie associative de Guéret qui est fort riche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Vernier.
Une demande qui fait suite au coup de fil que je viens de recevoir. Est-ce qu'il y a sur Guéret des personnes qui sont signalées pour accueillir chez elles des migrants?
Alors, des personnes ukrainiennes ou des migrants de façon globale?
Il y a certes des Ukrainiens, mais il y a parmi ceux qui sont arrivés de Paris, il n'y a pas que des Ukrainiens. Et il y en a certains qui ne sont pas blonds et qui ont beaucoup plus de mal à se faire accueillir que ceux qui sont blonds.
Alors,
ça va, ça vous dit quelque chose?
On comprend parfaitement.
Non, mais ce que je viens de dire, c'est que manifestement, on vient de m'appeler. Non, mais attends, écoute-moi. On vient de m'appeler pour que j'aide à accueillir, et on m'a dit qu'il y a des difficultés, notamment avec des Irakiens et des choses comme ça, parce que ceux-là, les familles n'en veulent pas. Donc, si vous connaissez. Voilà, c'est tout, je sais pas.
Mais
est-ce qu'il y a simplement sur la ville recensée des familles, moi j'ai donné deux noms à la personne qui m'a appelé, prêtes à accueillir et qui n'auront pas ce geste de rejet parce que c'est pas des blonds? Voilà, parce que ça m'a été dit comme ça au téléphone.
C'est un petit peu caricatural. Donc, voilà. Pour donner la situation telle qu'elle est actuellement, effectivement, sur les cars qui sont arrivés de personnes qui venaient d'Ukraine, il y avait des personnes qui n'étaient pas ukrainiennes, mais qui ont été prises en charge parce qu'ils étaient en Ukraine au moment où la guerre a éclaté.
Ça ne pose pas problème.
Donc, Afghans, Irakiens, personnes issues d'Afrique noire, leur situation en tant que demandeur d'asile n'est pas exactement la même que celle des Ukrainiens. Elle est traitée. Les services de la préfecture le traitent. Il y a de la place au CADA à Ville-Taïs. Donc, je parle là d'hommes célibataires. Je pense que les places sur le CADA seront les premières activées. La plupart des familles, pour ne pas dire toutes les familles, étaient parties dans l'idée qu'on leur avait donnée qu'arriveraient sur le territoire des femmes avec enfants. Donc, les familles se sont projetées sur des accueils de femmes avec enfants. Il n'empêche que maintenant, le message est passé, que des hommes arrivaient, et donc que des familles étaient aussi recherchées pour des hommes, certains étant malades, d'autres étant âgés, et donc ne pouvant pas combattre en Ukraine. Donc, on a changé de public, mais on a été très surpris, parce qu'on a découvert ce public à l'arrivée des cars, et on attendait. Moi, j'avais mon coffre plein de jouets et de couches pour bébé, quand j'ai vu arriver un car exclusivement de garçons dans la fleur de l'âge. Donc j'ai rangé mes couches, mais c'est pas pour ça que leur situation n'est pas prise en compte. Voilà.
Le sens de ma demande, c'est pas le CADA n'est pas dans le coup parce que les gens que je viens d'avoir sont des services de l'État. Donc
mais enfin moi la préfète que j'ai eu encore tout à l'heure.
Il y a des difficultés pour bien me faire comprendre et ça correspond pas du tout à ma philosophie, mais il y a des difficultés pour un jeune homme irakien et un yéménite que les gens ne veulent pas accueillir parce que il y a un problème de racisme, tout simplement. Voilà. Donc, si vous connaissez des familles qui sont ouvertes à ce genre de choses, ouvertes plutôt fermée au racisme et ouverte à l'accueil. Bon, moi, j'ai donné des
alors,
pistes.
On peut lancer l'appel. Après, il faut qu'on soit...
S'il y en a, voilà.
Il faut que chaque situation individuelle soit étudiée parce
oui,
que
mais,
est-ce
oui,
que leur souhait, effectivement, c'est... Oui, oui, bien entendu. Donc, si leur souhait, c'est de rester en Creuse, ils bénéficieront des mêmes dispositifs. Si leur souhait, c'est de vivre autre chose, puisque, à mon avis, ils ont été emmenés en France un petit peu comme les autres, de façon un petit peu urgente et rapide, on va attendre de voir quels sont leurs souhaits d'implantation sur le territoire ou ailleurs. Et leur dossier est suivi exactement comme les autres. Voilà.
Ma question, c'était si on a les uns ou les autres en tête.
Oui, oui, on a bien entendu.
Preneur du nom d'une famille. D'accord. Qui dit, moi, je veux bien accueillir un jeune Irakien ou un jeune Yéménite sans aucun problème, le temps que les choses se passent. Voilà, c'est tout. C'est le sens de ma demande.
Mais ça serait une question à se poser parce qu'ils vont se multiplier ces cas-là. Dans les bus à Paris, on a aussi des gens qui montent parce que le bus est ouvert et que leur situation est urgente. Donc il faut s'attendre effectivement à devoir régler ce genre de situation. Mais je pense que tout le monde travaille à le faire. Gilles.
Oui, non, mais il me semblait qu'il y a 6 mois environ, on avait créé un espèce de groupe de travail pour Interlis. Je me souviens, Patrick, c'est parti. Justement pour dépassionner ou dépolitiser, je ne sais pas comment on trouvait le terme, mais enfin, pour bien faire voir que c'est l'ensemble du conseil municipal qui participait, et donc le genre de questions que Michel vient de poser pourrait utilement essayer de trouver des réponses ensemble dans ce groupe de travail.
C'est pour ça que je le pose là.
Qui à ma connaissance, n'a pas été activé. Et l'occasion aussi d'expliquer pourquoi peut-être la solution dans l'accueil par des familles ne peut être que provisoire.
Oui, mais c'est
parce qu'autrement, ça crée plus de problèmes que ça en règle. Le chiffre ouf, on connaît. Et donc voilà, ça serait l'occasion de discuter un peu plus paisiblement du sujet. Mais moi, je demande ce groupe qu'on a reconstitué, hein, peu importe. Hein.
T'as entièrement raison. Entièrement raison.
Il y avait bien les 4 groupes.
Oui, oui, il y avait Patrice. Oui. Il y avait Patrice, il y avait toi, il y avait Thierry. Donc, c'est une excellente idée. Et comme tu dis, je pense qu'on a besoin de dépassionner un petit peu le débat se poser, parce qu'il faut avouer que depuis 15 jours, la mairie ne vit que Ukraine. On se jette partout pour collecter les dons, pour accueillir les gens, pour trouver des familles d'accueil. On n'a plus de recul, on n'a plus, et qu'il sera très bien maintenant que le dispositif est un peu organisé et que l'État a pris sa place, de pouvoir se reposer au titre de la municipalité. J'adhère à 100%. Donc on va convoquer ce groupe.
Je pourrais à ce moment-là faire part de la proposition des Maïs ou Luçon qui propose de fournir du matériel, des meubles, etc. S'il y avait besoin.
On en aura besoin pour la Banque de France, entre autres, puisqu'il y a 15 personnes qui vont être logées sur la Banque de France et qu'il n'y a pas de meubles. Ok. François.
Oui. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, et ce n'est pas un problème de mairie, ce n'est pas un problème de différentes tendances au sein du conseil municipal. Ce qui me gêne encore une fois, et j'ose le dire ici, c'est qu'on répond dans l'urgence en tapant sur les mairies, en tapant sur l'association des maires de la Creuse qui a été tout de suite sollicitée, qui a répondu, en tapant sur le département, en tapant sur les associations. Mais l'accueil des réfugiés, c'est d'abord une politique d'État. Où sont les budgets de l'État ?
Dans les mairies.
Où sont les budgets de l'État ? On va encore payer pour l'accueil de ces personnes. Et il faut les accueillir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et au contraire, je trouve très dynamisant de voir que l'ensemble de la population se précipite pour aider, quelle que soit la couleur de la peau d'ailleurs. Mais où sont les budgets de l'État ? Où est l'organisation de l'État ? On ne peut pas faire sans arrêt appel au maire et au président du conseil général pour répondre à des problématiques de politique étatique. Et une fois qu'on a dit ça, on va essayer de répondre. Et ton groupe sera le bienvenu. Mais voilà, la précipitation fait qu'il faut regarder des fois les choses d'un peu plus haut. C'est pas innocent, Madame le maire, c'est pas innocent si non plus il n'arrive pas que des femmes avec des enfants d'Ukraine dans les bus actuellement. Enfin, il y a tout un tas de choses, moi, qui me gênent terriblement dans cette précipitation. Et deuxième point qui me paraît très important, si la guerre perdure... Et si elle ne perdure pas d'ailleurs, ça sera pareil. Ces gens-là vont rester un moment. Et ce n'est pas 2 mois qu'ils vont rester. Et demander à des familles d'accueillir Pour 2 mois, c'est peut-être quelque chose. D'accueillir des gens pour 2 ans, c'est autre chose. Et l'accompagnement, je ne le vois pas au niveau de l'État. Je ne vois pas des mesures mises en place d'accueil. Je vois des préfets qui se précipitent dans les mairies pour faire accueillir.
L'État donc s'est engagé et le fait pour le moment à accueillir très rapidement les personnes pour leur faire une attestation provisoire de séjour qui va permettre de leur ouvrir tous leurs droits aux allocations, à la santé, etc. Et il a bien dit très clairement que jusqu'à ce que ces droits soient établis, on était dans des démarches purement citoyennes et bénévoles et que les familles d'accueil, comme les collectivités, devaient assurer financièrement ces réfugiés qui arrivaient sur le territoire. Donc le message est extrêmement clair. Est-ce qu'on a terminé pour ce soir? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? N'hésitez pas. Donc je retiens Gilles, Thierry, tu es d'accord? On va remobiliser ce groupe et puis on demandera à Patrice s'il veut toujours participer à ce groupe. Très bien. Donc on va le mobiliser rapidement. Merci à tous. Bonne soirée.